Bonjour Julie Dumontier.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Oui, merci, c'est gentil. Comme vous êtes arrivée comme un cheveu sur la soupe, dites-moi donc votre titre, Julie.
Oui, je suis agente d'éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Alors, ben, merci beaucoup, beaucoup d'être là parce
Ça
que,
fait plaisir.
de toute évidence, comme c'est pas le nom que j'avais sur la feuille, c'est qu'il y a eu un empêchement de la part de l'autre personne et vous avez levé votre main et j'apprécie.
Tout à fait, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir d'être là.
Alors, on voulait parler de ce que sont les droits d'accommodement selon que vous ayez un chien guide, un chien d'assistance pour personnes handicapées moteurs ou un chien d'assistance pour enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Et pourquoi je voulais en parler, c'est que il y a eu récemment un jugement de la Cour supérieure qui a obligé un utilisateur qui va dans une école à certaines conditions pour que celui-ci puisse amener son chien. Et là, moi, j'avais la présomption que les chiens d'assistance entraient sans condition. Et j'imagine que je me trompe.
C'est sûr que le jugement auquel vous faites référence, je ne peux pas vraiment le commenter. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que selon la charte, bien sûr, toute personne qui utilise un moyen pour pallier le handicap, qu'on parle ici d'un chien guide ou d'un chien d'assistance, comme c'est le cas auquel vous référez, cette personne-là qui utilise ce type de chien-là a le droit à l'égalité comme n'importe quelle autre personne. Ce qui veut normalement dire qu'il n'y a pas de conditions supplémentaires, c'est le point de vue de la commission, c'est ce que nous on fait comme recommandation, pardon. Donc après, ce que le tribunal a dit, ça lui appartient. Il faudra suivre aussi pour voir s'il y a d'autres développements par rapport à ce jugement-là. Est-ce qu'il y aura un appel ou pas? Ça sera à suivre. Mais oui, selon ce que la commission affirme, effectivement, c'est même ce que vous pouvez retrouver dans notre documentation officielle qui est disponible sur notre site Internet. La personne qui utilise ce type de chien-là, tout comme n'importe quelle autre personne qui subirait une discrimination basée sur n'importe quel autre motif, ne peut pas normalement subir de ou se faire imposer des conditions supplémentaires.
Bon, c'est difficile de ne pas parler de cette cause-là et je vais essayer de pas en parler, mais en même temps, ce que j'entends, c'est que c'est presque une première au Québec.
Ce jugement-là, ben en
Un
fait,
du genre, un jugement du genre, c'est-à-dire qui impose des conditions pour l'utilisation d'un chien guide, d'un chien d'assistance.
Écoutez, c'est vrai que normalement, la plupart des jugements qu'on voit en matière de chien d'assistance ou d'un chien guide viennent du tribunal des droits de la personne, qui est le tribunal spécialisé, qui est tout à fait habitué d'analyser l'application de la Charte des droits et libertés de la personne, puisque c'est son mandat, c'est la charte qui a créé le tribunal des droits de la personne. Donc, c'est sûr qu'habituellement, l'analyse qui est faite par le tribunal des droits de la personne est un petit peu plus liée à celle que la commission aussi met de l'avant. Donc oui, effectivement, dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il est plutôt inhabituel que la Cour supérieure se prononce dans ce genre de situation-là. Je ne sais pas s'il y aura une suite, si ce sera la dernière fois qu'on verra ça, mais effectivement, habituellement, c'est un petit peu plus du côté du tribunal des droits de la personne qu'on voit ce genre de cause.
Mais bon, c'est certain que ça va aller en appel. Je ne sais pas qui va amener ça en appel, que ce soit les parents de l'élève ou que ce soit des organismes, parce qu'entre autres, moi, ce que j'ai vu dans les conditions, c'est que l'utilisateur devait avoir une police d'assurance pour assurer que si jamais il y avait un problème de morsure ou quoi que ce soit, que l'assurance, écoutez, moi qui ai eu quatre chiens dans ma vie, ça voudrait dire en théorie, si jamais ça fait jurisprudence, que tout le monde devrait se munir d'une police d'assurance. En théorie, là, j'entends.
En fait, même quand un jugement se prononce sur une situation particulière d'un chien d'assistance, ça ne veut pas nécessairement dire après que la condition qui a été émise va s'appliquer à tout le monde. Parce qu'ici, comme on est en matière d'accommodement raisonnable, et si jamais la notion n'est pas familière là, pour les gens qui nous écoutent à la radio, c'est qu'en fait, quand il y a une situation qui s'applique à tout le monde, mais qu'elle a un effet d'entraîner un désavantage supplémentaire pour un type de personne qui est reconnue comme étant une personne protégée par la charte, à ce moment-là, donc ici, on a une discrimination qui va affecter une personne et qui va l'empêcher d'exercer son droit à l'égalité. Et à ce moment-là, pour corriger la situation, pour ramener la personne au même degré d'égalité que les autres, on peut appliquer un accommodement raisonnable. Et donc, dans ce cas-ci, c'est un peu ça. Si on prend l'exemple, c'est que normalement, on dirait, par exemple, les chiens sont interdits d'entrée dans les écoles, par exemple. Donc, ça, c'est la norme neutre. Mais, effectivement, une personne qui a besoin d'un chien guide ou d'un chien d'assistance, comme dans ce cas-ci, serait désavantagée par cette norme-là parce qu'elle a besoin de ce chien-là, au même titre qu'une personne pourrait avoir besoin d'une canne ou d'un fauteuil roulant ou de tout autre élément qu'elle utilise pour pallier son handicap. Donc, à ce moment-là, il faut accommoder la personne et voir qu'est-ce qui est possible de mettre en œuvre pour que cette personne-là puisse avoir accès aux mêmes services et avec la même qualité que les autres.
Ouais.
Et l'accommodement raisonnable, la base, c'est que c'est du cas par cas. Donc, par exemple, une autre école qui aurait un type de classe différent ou qui aurait un nombre plus élevé de profs, par exemple, ou qui aurait aucun élève avec des allergies déclarées aux chiens, par exemple.
Parce que c'était ça, entre autres, le problème dans cette classe-là. Oui.
Exactement. Donc, à ce moment-là, on n'aurait pas le même type de conditions parce que la règle de base de l'accommodement raisonnable, c'est qu'on ne peut pas copier-coller des solutions. Il faut vraiment regarder chaque situation dans son individualité et selon le contexte en place. Et c'est toujours selon, par exemple, le budget de l'organisation, la formation des ressources humaines, par exemple, le nombre de personnes disponibles, même le degré aussi de maladie, par exemple, de la personne, à quoi sert le chien d'assistance. Donc, tout ça, il faut le regarder. Même si dans ce cas-ci, il y a une condition qui a été mise en lien avec l'assurance, on ne peut pas dire que dorénavant, ça va s'appliquer à tout le monde parce que c'est tout à fait contraire, en fait, au principe de base de l'accommodement raisonnable qui est d'avoir des solutions individualisées et personnalisées aux besoins et aux droits des gens.
Et monsieur, que je crains quand même l'ouverture d'une boîte de Pandore. En conversation avec Julie Dumontier, qui, elle, est de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Julie, on voit de plus en plus de gens, surtout aux États-Unis, utiliser des chiens d'assistance pour pallier à des problèmes de santé mentale, que ce soit l'anxiété, que ce soit la dépression. Est-ce qu'on voit cela au Canada? Est-ce qu'il y a un statut pour ce type de chien au Canada? On en est où ici?
OK. Ça rentre dans la catégorie plus générale de chiens d'assistance. C'est sûr que c'est un petit peu plus embryonnaire. C'est un peu moins connu comme type de chien, effectivement. Mais il y a des organismes là, qui existent. On voit de plus en plus ce genre de chiens-là formés. Je vous dirais que le critère de reconnaissance demeure le même. La commission ne possède pas une liste officielle d'associations, pour lequel on reconnaît un statut officiel de formation.
Des écoles chiens, formateurs de chiens, là.
Exactement. Ouais. Donc, nous, on ne possède pas une liste officielle pour justement permettre, comme je le disais il y a quelques instants, comme ce sont des situations personnalisées, pour justement permettre que des écoles puissent bien former des chiens qui vont répondre à des besoins spécifiques. Donc, on ne possède pas cette liste-là officielle. Par contre, les critères demeurent les mêmes. N'est pas reconnu chien d'assistance n'importe quel chien. Il faut que ce soit bien sûr un chien qui a reçu une formation dans une école qui est spécialisée pour former des chiens d'assistance. Donc, il faut quand même avoir une preuve de cette formation-là. Habituellement, c'est donné sous la forme d'un certificat qu'on remet au maître du chien. Des fois, ça peut même être une inscription qui est directement sur le harnais du chien, par exemple. Et ça prend effectivement un signe qui permet au chien d'être reconnu comme tel. Donc, soit un harnais, soit un logo spécial, soit un collier spécial. Mais c'est vraiment la combinaison de ces deux éléments-là qui vont faire en sorte qu'un chien d'assistance peut prétendre au titre de chien d'assistance.
Je termine en disant, en vous demandant, en fait, est-ce que dans le bureau, là, vous vous êtes intéressé à ce cas de la Cour supérieure? Est-ce que ça a fait un petit, un petit voyant lumineux? Est-ce qu'on se dit, ah, faut peut-être se préparer ou c'est intéressant ou c'est juste moi qui a réagi?
Non, je vous dirais, on a réagi, bien sûr, à l'interne, évidemment, parce que, comme je vous disais, ça semble une analyse un petit peu différente que celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Après, pour tout ce qui est stratégie, c'est sûr que nous, bon, moi, je suis à l'éducation coopération, ça nous a fait réagir, bien évidemment. Pour ce qui est du côté judiciaire de la chose, on a ici une direction du contentieux. Il faudra voir si cette direction-là songe à peut-être entamer une action en justice ou s'impliquer dans une action en justice, ça sera à voir dans le futur. Mais oui, bien sûr, ça nous a fait réagir. Nous, ce qu'on veut, c'est toujours protéger les droits des gens le plus possible. C'est le mandat que nous accorde la Charte.
Très intéressant, en tout cas, comme sujet. Julie Dumontier, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Elle, qui est dans l'éducation et la coopération comme agente d'information à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.